Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Diagonale. Eh bien aujourd'hui, nous passons par la Lorraine puisque nous accueillons le maître international Christophe Philippe. Salut Christophe.
Bonjour Stéphane.
Alors, la Lorraine avec toi, c'est un rendez-vous important dans Fréquence Diagonale parce que tu es un organisateur qui monte, hein, je crois qu'il faut le dire, il faut le rappeler. Tu es maintenant depuis 12 ans et 12 éditions le maître d'œuvre, l'organisateur, le créateur du festival d'échecs de Meurthe-et-Moselle.
Oui, c'est ça. Oui. Voilà. J'ai la chance d'être soutenu par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle sur cet événement, voilà, depuis 12 ans déjà.
Alors évidemment, on va en parler, et on va parler de ce festival en long et en large. On parlera aussi de la Lorraine un peu plus, et puis aussi de quelques événements, de quelques responsabilités nationales que tu as dans cette émission. Mais alors avant, en première partie, moi je voulais aborder avec toi quelque chose qu'on a envie de connaître quand on connaît un joueur titré, que ce soit un grand maître ou un maître international. C'est évidemment ton parcours échiquéen, voilà. Comment tu as démarré les échecs, à quel âge, comment était ton parcours et comment tu es arrivé au titre de maître international?
Bon, c'est simple, j'ai commencé les échecs très tard, à l'âge de 15 ans. En 1990, en fait, avec le match Kasparov-Karpov à Lyon, hein, qui passait sur TF1 le soir, je me rappelle très bien. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce jeu? Donc, j'avais déjà un petit peu appris avant, et j'ai poussé les portes d'un club, et du club de Chaumont, en Haute-Marne, ma ville de naissance. Et puis voilà quoi, après bon comme beaucoup de joueurs, hein, les samedis après-midi sont enchaînés au club, tout de suite je suis tombé vraiment amoureux de ce jeu, j'ai tout largué, le tennis, le judo, enfin tous les trucs de jeunes pour les échecs deux jours par semaine quoi, hein, et puis les compétitions, même s'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque en Champagne-Ardenne, en Haute-Marne surtout, mais je me rappelle qu'il y avait 2-3 compétitions dans l'année, on n'en ratait absolument pas. Mais surtout, je me rappelle de ces après-midi au club quoi, qui m'ont fait démarrer les échecs. Quoi.
D'accord. Et ce démarrage des échecs, est-ce que aussi l'aspect, au-delà du jeu, l'aspect historique aussi t'a intéressé ou c'est resté uniquement le jeu lui-même?
Ah non, au début, c'était vraiment la passion de jouer, d'enchaîner les parties. Je me rappelle très bien que j'arrivais même avant l'ouverture du club et à chaque fois, je surprenais le papy qui ouvrait le club, quoi. Et je me rappelle très bien que vraiment j'enchaînais 6 heures de partie dans l'après-midi, le samedi après-midi, ça m'a marqué ça. Et puis après, avec des jeunes, on a voulu un petit peu créer un nouveau club, mais complètement en accord avec les papys quoi. Et on a même créé un club, je me rappelle très bien, à l'âge de 15 ans. Donc déjà j'étais pas que pur joueur, parce que dès le début en fait j'ai créé un club avec des amis. Et je me rappelle très bien avoir rempli les papiers à la préfecture des statuts du nouveau club de Chaumont. Et à l'âge de 15 ans, quoi, 15-16 ans. Donc j'étais déjà un peu dans l'organisation dès le début, quoi.
Ouais, d'accord, t'avais déjà une fibre organisation. Alors,
oui, un peu, ouais.
Et alors, évidemment, on ne devait pas mettre un international uniquement, je suppose, en jouant que le samedi après-midi. Je pense que t'as dû aussi te passionner pour la théorie du jeu, un peu, lire des livres.
Un enfant des livres, moi, c'est venu plus tard, ça, les livres d'échecs. Là, au début, je me rappelle très bien que j'avais acheté un ordinateur d'échecs, hein, c'était le début, les premiers ordinateurs, là, on jouait sur un vrai échiquier, quoi, hein. C'était pas sur PC, c'était pas sur PC au Mac, c'était sur un ordinateur avec des petites pièces en plastique, là, et je me rappelle très bien que j'avais acheté un Yonex qui devait valoir dans les 1800 LO, je pense, plus. Et je jouais, j'enchaînais les parties chez moi. C'est ça en fait qui m'a fait progresser. C'est mon entraîneur et le seul entraîneur que j'ai jamais eu, je crois. C'est ce petit ordinateur là qui m'a fait vraiment progresser. Et j'ai eu rapidement des résultats. En même temps, il n'y avait pas des grandes compétitions dans ma zone. Hein, donc, mais bon, je me rappelais que je gagnais le tournoi du club, ce genre de choses. Et en fait, ce qui m'a un peu propulsé, c'est en fait l'arrivée étudiant à Nancy, quoi. Après mon bac en 92, je suis arrivé, j'ai choisi Nancy à cause des clubs d'échecs en fait, hein, parce que en Champagne-Ardenne normalement on devrait aller à Reims pour étudier. Et moi j'ai fait, bon je fais de la biologie, c'est comme ça, mais en tout cas j'ai choisi Nancy pour la qualité de son club d'échecs. À l'époque c'était Échiquier Nancéen, un énorme club, puisqu'il n'y avait pas encore à l'époque Vendeuvre, Nancy Stanislas, tout ça, les 5 clubs qui actuellement à Nancy. Il n'y avait qu'un gros et il y avait un fameux Christian Bauer dans ce club. Et voilà, et j'ai commencé à rencontrer un peu le haut niveau, lui qui était en pleine ascension, hein, qui a quelques années de moins que moi, qui doit avoir 2 ou 3 ans de moins que moi. Et on a commencé à enchaîner, à écumer les tournois en Lorraine. tous les rapides, tous les dimanches, jouer en Allemagne aussi, parce qu'on a cette chance, en fait, quand on est frontalier, une région frontalière, on peut aller jouer les championnats et les tournois des pays voisins. Et voilà, c'est là vraiment, c'est devenu encore plus une passion, quoi, hein, de jouer. Je jouais tous les week-ends, quoi. Donc en fait, j'ai jamais vraiment, un peu comme lui d'ailleurs, j'ai jamais vraiment travaillé les échecs, enfin, je veux dire, avec un entraîneur, avec des séances d'entraînement, tout ça. Mais moi, par contre, j'allais jouer tout le temps, quoi, toutes les vacances scolaires, tous les week-ends, c'était vraiment la passion du jeu. Et j'ai progressé, complètement naturellement, en jouant.
D'accord, par l'entraînement. Par la pratique. D'accord, l'entraînement, la pratique du jeu. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de, comme tu as appris un peu tard, bon, il faut le temps de la progression, est-ce que tu as eu jusqu'à 20 ans les championnats de France de jeunes? Donc, est-ce que tu as eu l'occasion
Justement, non, je connais pas du tout les championnats de France jeunes. En fait, je les ai connus plus tard en tant qu'entraîneur.
D'accord.
Mais bizarrement, j'ai jamais joué aucun championnat de France jeunes. J'étais pas du tout assez fort. Et en plus, dans ma ligue, je me rappelle que les deux stars de ma ligue, quand moi j'ai commencé les échecs, je parlais, c'était Elliott, c'est notamment Nicolas Elliott et Didier Colas, mais alors qu'avaient à l'époque, je sais pas, 500 points à l'autre plus que moi, quoi. Ils avaient déjà jeunes 2200, 2300, et moi j'étais loin derrière, alors absolument pas qualifiable pour les championnats de France. Et d'ailleurs, ça a été un petit truc sympa quand plus tard j'ai été rattrapé à l'âge de, 25 ans, comme ça, quand je suis devenu émis moi aussi. Mais bon, à l'époque, ils étaient à des années-lumière de mon niveau, quoi.
D'accord, donc t'as pas pu jouer ces championnats de France. Est-ce que t'as essayé quand même de jouer les championnats départementaux, régionaux
Voilà, comme tout joueur basique, hein, au début, on joue tout. On joue le championnat départemental, le championnat régional, tout ça, mais pas en jeune. Moi, j'ai jamais joué en jeune, en fait.
D'accord, en adulte tout de suite, d'accord.
Voilà, c'est ça.
D'accord, ouais. D'accord. Et alors comment tu deviens émis? Parce que pour devenir émis, on sait que les conditions sont quand même pas évidentes. Il faut bien sûr dépasser 2400 ELO, mais ça suffit pas. Il faut aussi des normes qui sont dans des tournois en général. Il faut au moins un ou deux tournois fermés. Bon, tu vas nous raconter les conditions. Donc comment cette occasion de devenir émis s'est présentée et comment tu as pu obtenir ce titre? Quel a été ce parcours?
C'est vers les années 2000, hein, comme déjà dit, j'ai cumulé les tournois avec Christian Bleur, puis avec d'autres, hein, il y avait d'autres joueurs dans le coin, Claude Adrian, tout ça, Cédric Passy qui est venu un petit peu après, donc on faisait des tournois tout le temps. On allait à, je me rappelle que j'ai eu une période où j'allais beaucoup à Budapest, hein, faire des tournois qui s'appellent les First Saturday, en fait, c'est un tournoi fermé qui a lieu chaque mois, donc c'est le paradis pour faire des normes, alors que moi j'en ai fait aucune là-bas. Mais par contre, j'ai pris de l'expérience, quoi. J'ai joué contre des joueurs internationaux et tout. Et mes normes, elles sont tombées un peu par hasard. Je me rappelle, j'en ai fait une à Bagneux, la deuxième en Angleterre dans un tournoi fermé aussi. Puis la troisième à l'Open de Metz, qui est un grand Open classique. Au moins, ça fait plus de 30 ans qu'il a lieu en Lorraine, le grand Open international de Metz. C'est là que j'ai fait en 2003 ma dernière norme de MI, quoi. Mais c'est venu vraiment comme ça. Il n'y a pas vraiment eu de grand travail pour le faire. C'est vraiment par la pratique, en jouant tout le temps, quoi.
D'accord, c'est par le jeu pur. Alors, pour le tournoi fermé, tu me disais en Angleterre, c'est une invitation que tu as reçue ou...
Alors, oula, c'est vieux ça, c'était en 2001, je crois. Oui, je crois. Alors, j'avais des Anglais qui jouaient dans l'équipe de Nancy, de National 1, et c'est bien possible que c'est par Keith Arkell, un grand maître anglais, un vétéran maintenant, qui m'avait invité à jouer au tournoi d'un de ses amis, qu'un de ses amis organisait à Litchfield, je m'en rappelle. Et voilà, j'ai fait la dernière, il fallait que je gagne la dernière ronde, ça je me rappelle très bien, contre un Hollandais, et j'ai réussi à la gagner, c'était assez chaud.
D'accord, donc ça a dû te faire plaisir. Alors comment ça se passe, après tu reçois une fois que, alors t'avais sans doute un ELO déjà supérieur à 2400 et...
Non, justement, moi j'ai fait mes trois normes bien avant d'avoir 2400 ELO, et d'ailleurs j'arrivais pas à les avoir à 2400, parce que je suis un joueur connu pour être assez irrégulier, quoi, hein. Je peux larguer 20 points dans un tournoi et puis gagner le suivant, et donc j'arrivais à faire des normes, mes trois normes, en faisant d'excellents tournois, mais derrière je faisais un tournoi complètement médiocre, et donc je perdais mes points, quoi, et donc j'ai ma dernière norme en 2003 et mon titre qu'en 2005, quand enfin j'ai passé les 2400 ELO, j'ai mis 2 ans. Ça a presque été aussi long que de faire une quatrième norme.
D'accord, et là, dans ce cas-là, la FIDE, la Fédération Internationale des Échecs, t'envoie le diplôme officiel
Oui, je crois bien, je crois que c'est FFE qui envoie le diplôme, qui elle doit recevoir de la FIDE, j'imagine, ouais, quelque chose comme ça.
D'accord, et donc tu fais partie maintenant des titrés français, alors tu sais que... Alors bon, maintenant c'est un peu plus courant qu'avant, on en a quelques-uns, oui. Mais il y a encore 30 ans de ça, on n'en avait pas du tout. Puisque le premier maître international, c'est Nicolas Giffard en 78, je crois.
Oui, bien sûr, oui. Il a beaucoup progressé sais, maintenant il y a plus de 40 grands maîtres, je crois, en France.
Oui.
Et j'imagine plus de 100 maîtres internationaux.
Voilà, on est devenu une des plus grandes nations échiquiennes du monde, hein, ouais. C'est vrai, avec un nombre de titrés qui commence à devenir conséquent. Alors ça, c'est ton parcours de joueur. Et puis alors, on voit, comme tu disais au début, tu es dès le début aussi intéressé par l'organisation, tu crées ton club chez les jeunes. Et alors, il te vient à un moment donné cette idée d'organiser un festival, le festival de Meurthe-et-Moselle. Alors ça te vient comment? Comment ça démarre donc il y a 12 ans, c'est ça, en 2002?
Voilà, alors donc en 2003, en fait quelques mois avant, je m'occupais déjà un petit peu de certaines choses au club de Nancy, et je vais tout simplement négocier une subvention auprès du directeur des sports de la Meurthe-et-Moselle, du conseil général, Stéphane Dupré, qui est devenu un ami après, et coup de chance, hein, il me dit qu'il a joué pas mal aux échecs, que c'est un joueur passionné qui joue sur Internet, hein, qui joue toujours d'ailleurs sur Internet, beaucoup, et on papote, et puis au bout d'un moment, on parle plus du tout de la subvention pour le club, mais par contre, il me dit qu'il aimerait bien faire un tournoi d'échecs dans les locaux du conseil général. Parce que forcément, au bureau des sports, ils peuvent pas faire beaucoup de compétitions sportives dans l'enceinte du conseil général, à part les échecs.
Oui.
Et donc ça tombait très bien, ils avaient des salles magnifiques, hein, que j'utilise toujours 12 ans après, notamment une grande salle de l'Assemblée, quoi, qui est vraiment magnifique pour jouer aux échecs. Et voilà, c'est parti tout simplement de là, donc un hasard complet, quoi. Je viens chercher une subvention, je repars avec un tournoi organisé. J'avais bien sûr jamais organisé de tournoi, de grands tournois, j'avais peut-être participé à l'organisation de petits trucs, de je sais pas, de Lorraine, de je sais pas, de Meurthe-et-Moselle, mais pas d'un grand tournoi, et voilà. Et puis mon idée tout de suite, ça a été de ne pas organiser un Open, justement. Parce que des Open, il y en avait déjà. Il n'y avait pas encore l'Open de Vendôme, je crois, mais il y avait déjà le Grand Open de Metz en Lorraine. Puis il y en avait partout, il y en a partout des Open. Et par contre, justement, j'avais fait mes normes dans des tournois fermés, et je m'étais dit, tiens, ça serait marrant d'organiser des tournois fermés, mais aussi pour les amateurs, quoi. Hein, organiser un tournoi fermé avec des maîtres et des grands maîtres, ça c'est facile. Voilà, ça peut permettre l'obtention de normes et tout, mais par contre, les amateurs n'avaient jamais joué, c'est très rare de jouer à tournoi fermé, quoi, quand on est 1600, 1800 ou même 2000 élos, quoi. Et donc voilà, mon idée, ça a été de faire un grand festival composé de tournois fermés de 10 joueurs. Tout le monde joue dans un groupe de 10 joueurs de son élo. Ça permet de jouer vraiment 9 parties intéressantes, contrairement à un Open où tu sais bien qu'il y a l'effet yo-yo, hein, on perd contre un très fort, on gagne contre un enfant, et puis on continue comme ça des fois tout le tournoi, quoi. Donc un tournoi fermé, on a 9 parties difficiles pendant la semaine.
Oui, donc ça c'est original, parce que je crois que c'est un des rares, si ce n'est le seul tournoi.
Oui, maintenant il y en a 3, 4, 5 autres en France, j'ai remarqué. Mais à l'époque, il n'y en avait pas, oui.
Il n'y en avait pas à l'époque, oui. Alors, ce festival, je crois qu'il a évolué. Je ne sais pas si je vais me tromper ou pas, mais je crois que maintenant, tous les 2 ans, il y a une transformation de formule, c'est ça?
Voilà. Alors après, moi j'aime bien organiser, mais j'aime pas trop quand même faire la même chose tous les ans, surtout pendant 10 ans. Donc à un moment, mais je suis aussi passionné des tournois de partie rapide. Et j'aime beaucoup les tournois de partie rapide, je trouve que c'est super. Un dimanche, comme ça, on va jouer son tournoi. C'est un public différent, on peut y aller en famille. Des gens qui vont juste au club de temps en temps, ils aiment bien se faire un petit tournoi de partie rapide le dimanche. C'est pas loin de chez eux. Alors que la formule des tournois fermés ou les grands open d'une semaine, c'est réservé quand même à des joueurs de compétition actifs qui sont déjà très passionnés, quoi. Donc c'est un peu le principe des courses, quoi, hein, quand on fait un peu du marathon, ou alors quand on fait les petites courses des 10 km le dimanche, quoi, en famille. C'est vraiment ça pour moi, les tournois de partie rapide aux échecs, et j'adore ça. Et donc je me suis dit, je vais faire la formule une année en partie rapide et une année, on va dire, le vrai festival originel en partie longue, quoi. Et donc ça a super bien marché. En 2011, j'ai commencé l'alternance, donc j'ai fait le pas de France de partie rapide, donc un très beau tournoi où il y avait vraiment quelques stars françaises, il y avait déjà, je crois, Bacrot, Fraissinet, tout ça. Et puis en 2012, donc ça a été le festival. Puis en 2013, l'année dernière, c'était pas le pas de France rapide, c'était Grand Prix. J'ai un peu travaillé avec la fédération sur le Grand Prix. C'est là que j'ai commencé à travailler avec la fédération, en fait, sur le Grand Prix FFE. Donc il s'est arrêté depuis à cause des événements qu'on connaît, parce que c'est une autre équipe qui a gagné des élections, et donc c'était l'équipe précédente qui avait créé le Grand Prix. Donc c'était surtout en plus Léo Battesti et Jean-Claude Moi. Mais donc j'ai travaillé avec eux sur ce Grand Prix. Et bon, c'est une formule intéressante, mais au final, je me suis aperçu que économiquement, c'était vraiment trop dur à tenir. Mais par contre, ça a donné deux tournois incroyables à Nancy, quoi. Avec, il y a eu en 2012, déjà j'en ai déjà fait un Grand Prix, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numéros, enfin, meilleurs joueurs français, quoi. C'est un truc de fou. Avec numéro 1 allemand, tout ça. Enfin, des tournois avec 32 grands maîtres, j'ai eu. Ça fait les tournois de partie rapide magnifiques. Moi j'adore les tournois de partie rapide, quoi, le week-end.
Alors, tu parlais de la dimension un peu économique de ces événements. Tu peux nous en dire un peu? C'est le conseil général, je suppose, qui participe. Et puis, tu vas aussi chercher peut-être des sponsors un peu locaux. Comment ça se passe?
Alors, oui, bon, au niveau des subventions publiques, là, c'est clair, puisque c'est le festival d'échecs du conseil général. Donc, il n'y a que le conseil général qui participe au niveau subventions publiques. Et puis, bah, j'essaye, hein, comme tout organisateur, de trouver un peu des sous privés. Hein. C'est pas facile dans les échecs, c'est pas facile. Alors, certaines années, j'y arrive. D'autres, il y a des sponsors qui arrêtent. Hein. Bah, j'avais la FNAC à un moment, mais bon, comme on sait, la FNAC, elle est quasiment en faillite au niveau national. Donc voilà, j'ai plus la FNAC, après les banques, ça change, etc. Bon, c'est pas facile, hein, les sponsors privés dans les échecs, ça c'est certain.
Oui, d'accord. Donc alors, on revient sur ton tournoi et puis on va parler un peu de son palmarès qui est extraordinaire. Hein. Donc moi, je l'ai devant les yeux, puisque alors, le site est très bien fait. L'adresse, hein, on le mettra sur le podcast, bien sûr, mais on peut la dire aussi à l'antenne, là, c'est échec avec un S 54.free.fr.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et donc, on a le palmarès depuis 2003.
Ouais, 12 ans. Hein.
Voilà. Donc, on a le MI Okotnik. Il est très difficile à dire.
Oui, Vladimir Okotnik, c'était les tout premiers festivals. Là, il y avait 6 groupes de 10 joueurs, je me rappelle, au premier, c'était tout petit, j'ai commencé tout petit. Hein. Personne en plus connaissait les tournois fermés, les amateurs ne savaient pas du tout ce que c'est qu'un tournoi fermé où on joue 9 adversaires de son élo. Et puis ça a grandi rapidement quand même.
Voilà, donc ça, c'est, il gagne en 2003 et en 2004.
Oui.
Et après, on trouve déjà un grand maître assez connu dans le monde, hein, c'est pas n'importe qui, c'est le GMI Nijbourg des Pays-Bas,
hein,
voilà, qui a gagné en 2005. Ensuite, on se retrouve avec le MI Sikula ukrainien, vainqueur en 2006.
Oui.
Alors, on retrouve quelqu'un qu'on connaît bien en Ile-de-France, puisque là, moi, je suis basé sur en Ile-de-France pour le moment, et c'est un joueur qui participe à énormément de tournois, c'est le grand maître Gouliev.
Oui.
Qui a gagné en 2007. Et puis enfin un local, puisque c'est Bauer, le grand maître international Bauer, un des meilleurs joueurs de France, qui gagne en 2008. Hein, voilà, ça c'est. Ça y est.
Oh, bah, Christian, il en a fait beaucoup des festivals, bien sûr, hein, puisque c'est l'enfant du pays, hein, c'est le Lorrain d'origine. Bon, en plus, on a partagé plein de trucs, lui et moi, on avait été coloc à une époque. Donc oui, c'est sûr, il a été invité plein de fois, parce qu'en même temps. Tout correspondait, quoi. C'était l'enfant du pays, la star, en plus dans les meilleurs français, donc c'était pratique pour moi de l'avoir, quoi.
Oui, bien sûr. Et alors après, je continue ce palmarès. En 2009, on voit la dimension mondiale de l'événement, puisqu'on a un des plus grands joueurs du monde, hein, c'est simplement le grand maître indien Hari Krishna, hein, qui quand même, il doit culminer à 2006 ou 2007, lui, hein. C'est un très grand joueur, je crois bien, hein.
Ah oui, bah, il y a eu quelques stars. Bah, alors, c'est certain qu'il y a eu plus de stars en partie rapide, hein, puisque bien sûr, les primes d'invitation sont pas les mêmes sur une journée ou sur une semaine. Mais lui, j'avais réussi à l'avoir pour la semaine entière et il avait d'ailleurs écrasé le tournoi où il y avait pourtant Christian, il y avait le très fort allemand Meyer, je me rappelle très bien. Mais ils sont tous quasiment passés à la mouline et quand on voyait la classe d'Hari Krishna, quoi, qui est plus de 2700 élos depuis longtemps, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est un des meilleurs joueurs carrément de la planète, hein, qui est venu à Nancy. Donc ça montre quand même la hauteur de l'événement que tu organises. Alors je continue le palmarès, on va arriver jusqu'à aujourd'hui, pour parler de cette année aussi. Donc en 2010, on a Postny, le grand maître Postny, oui. Israélien, vainqueur. Et en 2011, on retrouve un Français, et pas des moindres, hein, puisque c'est le numéro 2 ou 3 actuellement, je vais pas regarder le détail, mais qui vient de se qualifier d'ailleurs pour la Coupe du Monde, là, hier, je crois, hein, avant-hier, il vient de se qualifier en finissant dans les premiers du championnat d'Europe, c'est le grand maître Fraissinet. Ah, là, que je connais bien, puisqu'il est aquitain, comme moi, au départ. Donc, il gagne en 2011. Donc, là,
c'est la première formule rapide, un tour tournoi, j'ai fait un blitz le samedi et rapide et le chemin de France rapide le dimanche, c'est un truc de folie. J'avais invité même Kazim Djanov, un ex-champion du monde, oui, qui n'a pas gagné. Et Laurent Fraissinet a écrasé le blitz le samedi et a été champion de France de partie rapide le dimanche. Mais le tournoi a été gagné par, je me rappelle, un très fort Allemand, donc j'oublie le nom. Mais bon, c'était un tournoi de folie, quoi, avec des 2700 à l'appel, avec Nedich, Bacro, vraiment tout le monde, quoi. C'était le premier méga tournoi rapide, le plus fort tournoi qui ait lieu dans le coin, bien sûr.
Voilà.
Et le plus fort en France de l'année-là, quoi.
Oui. Oui, alors il y avait du lourd, forcément, puisque la FFE, cette fois, t'avait donné pour ce tournoi,
Le label
championnat de France, avec donc Fraissinet qui devient champion de France. Alors en 2012, avec 160 joueurs, hein, ça oscille entre 200
entre 200. Entre 150 et puis 200, je dépasse les 200 et partie rapide, bien sûr.
Ouais. Donc on retrouve un autre grand maître qui monte aussi, lui. Alors lui, c'est un des jeunes qui monte fortement, c'est le grand maître international français Romain Edouard, qui gagne en 2012.
Alors en 2012, c'est le 10e anniversaire du festival, donc ça tombait bien, bon, c'était calculé bien sûr, mais ça tombait sur la formule originelle, hein, en une semaine. Et j'ai pas fait un tournoi à normes de grands maîtres, j'avais invité 6 grands maîtres à jouer en partie aller-retour, donc ils se jouaient chacun les 5 autres en blanc, avec les blancs puis avec les noirs. Et donc c'était un spectacle assez impressionnant. Et en fait, je les ai fait jouer l'aller en partie longue et le retour en partie rapide. Donc c'était intéressant. Comme ça, ça faisait un peu une sorte de finale qu'on avait joué au milieu du public. C'était sympa. Et c'est vrai que Romain Edouard avait, construit sa victoire sur les parties rapides vers la fin. Il avait été plus fort que l'autre, mais il y avait Sokolov, un très fort grand maître, le Sokolov Ivan, le Hollandais. Et il y avait Christian, c'était super fort, hein. C'était très fort. Ouais.
Donc ça, c'est 2012. Alors, on parlera de 2014 après la pause, mais alors on va rappeler avant 2013, puisqu'on a une édition spéciale en 2013 qui fait partie du Grand Prix FFE.
Rapide, ouais.
Voilà. Et là, c'est notre grand maître d'importation, puisqu'il est français maintenant, c'est bien sûr le grand maître international Vladislav Kachev.
Oui, alors là, 2013, je crois que ça a encore battu le record de 2011. Ça a été, donc il y avait Kachev, mais il y avait aussi Vachier Lagrave, Bacro, Fraissinet, il y avait vraiment tout le monde. Et je crois que Fraissinet a même pas passé, tellement c'était fort, il n'a même pas passé le samedi, la qualification pour le dimanche, donc c'est dire un peu le niveau du tournoi. Il y avait 16 qualifiés pourtant pour le dimanche. Et c'est Kachev qui a battu un russe complètement inconnu à ce moment-là, Dobrov. Dobrov qui avait éliminé Vachier Lagrave, je me demande même s'il n'avait pas éliminé Bacro, enfin un truc de folie, est arrivé en finale, un russe qui s'était qualifié à la 16e place le samedi, à la dernière place quoi, et qui a été jusqu'en finale, vraiment une histoire comme on en voit que dans les films quoi, et finalement le français Kachev, donc ex-russe, kazakh, hein, mais bien sûr français, maintenant pour plusieurs fois champion de France, et finit par vaincre ce fameux Dobrov en finale quoi, ça avait fait un beau spectacle.
Voilà, Kachev qui est connu pour être un très très grand joueur de partie blitz et rapide justement.
Voilà, oui.
Et qui je crois même...
Bah, en même temps, Vachier Lagrave, Bacro aussi, hein, sont des super joueurs de blitz et de partie rapide, hein, et vraiment...
Ah ben Maxime Vachier Lagrave qui vient de gagner cette année le doublé, hein, puisqu'il est champion.
Oui, donc c'est dire le niveau d'un tel tournoi, les Grands Prix FFE, c'était quelque chose de magnifique, mais c'est juste que économiquement, c'est pas tenable, quoi. Mais bon, c'est quelque chose de magnifique d'un point de vue sportif, quoi. Moi, j'ai adoré les organiser, quoi.
D'accord. Donc ça, c'était donc le grand maître Kachev en 2013. Alors, on va parler 2014 après notre première pause, si tu veux bien, Christophe.
Okay.
On va faire une petite première pause musicale. On parlera de cette édition 2014 et puis sans doute, on annoncera aussi ce qui est prévu pour 2015. Et puis, on parlera plus généralement de la Lorraine et puis aussi de tes responsabilités maintenant nationales que tu nous expliqueras. Alors, est-ce que tu sais comment sont les pauses musicales sur Fréquence Diagonale?
Non, dire.
Elles sont sous licence libre. Voilà, ce sont des musiques sous licence libre. Donc les licences libres que je vous invite forcément à découvrir si vous écoutez ce podcast. Voilà. Donc on se retrouve juste après notre première pause musicale avec Christophe Philippe et pour parler toujours de la Lorraine et du Festival international de Meurthe et Moselle. A tout de suite. Mmh.
certaine alchimie secrète. Une certaine alchimie secrète circule. Librement le temps d'une nuit. Librement le temps d'une nuit. Sans lune. Sans lune.
Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte.
Voici de retour sur Fréquence Diagonale après cette pause musicale. Donc dans la première partie avec le maître international Christophe Philippe, on a parlé de son parcours, pour comment il est devenu maître international et comment il en est venu à organiser le Festival International d'échecs de Meurthe-et-Moselle, qui est maintenant devenu un des grands moments du calendrier français et même international, qui en est à sa 12e édition, qui a vu... un palmarès extraordinaire, puisqu'on a des grands maîtres de niveau mondial comme Hari Krishna, Laurent Frayssinet, Christian Bauer, local aussi, un joueur local, Christian Bauer, et aussi grand maître international, champion de France. On a aussi Katchev qui a gagné, voilà, donc un très très grand tournoi. Alors, on s'est arrêté pour le palmarès de ce tournoi à l'édition 2013, mais là on est en 2014 quand on enregistre ce podcast. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? C'est tout chaud, Christophe. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette édition 2014 qui vient à peine de se terminer?
Donc cette année, oui, c'est fini il y a 15 jours. Donc déjà, c'est revenu donc à la formule lente, hein, sur une semaine. Alors en fait j'ai réduit sur 5 jours en essayant une formule double ronde. J'aime bien faire des petites modifications comme ça pour s'adapter à notre époque aussi, hein, puisque 7 jours d'hôtel à se financer, c'est pas forcément facile. Et donc j'ai réduit à 9 rondes en 5 jours, donc c'est assez dur parce que ça fait 4 journées à double ronde, hein. C'est pas que dur pour les joueurs, c'est dur aussi pour l'organisateur, parce qu'on n'a plus de matinée de repos pour récupérer. Et j'ai fait un sondage d'ailleurs pour savoir si c'était bien, si c'était positif, et une écrasante majorité, à ma grande surprise, les joueurs ont aimé en fait cette formule en 5 jours. Alors il faut relativiser, surtout les joueurs amateurs, bien sûr, les joueurs professionnels des deux tournois A et B, eux ils préfèrent jouer sur une semaine et voire même sur 9 rondes en 9 jours, quoi. Parce que bien sûr c'est très dur pour eux, il y a 2 heures de préparation tous les matins normalement quand on joue l'après-midi. Là c'est sûr qu'il y a plus de préparation, 2 rondes par jour, en tout cas c'est très difficile, on se couche très tard. Mais bon, en tout cas pour la grande majorité des joueurs, ils ont beaucoup apprécié cette formule en 5 jours. Et bon, j'imagine, pour des raisons économiques, et moins de jours de congés à prendre. Donc j'ai essayé ça, mais bon, en tout cas, c'était la formule en partie longue, en groupe de 10 joueurs. Il y en a eu 14 cette année. Alors j'ai eu un petit peu moins de joueurs cette année, mais je crois que j'avais deux clashs importants, en fait. C'est que je clashais l'Open de Capelle-la-Grande, qui est un magnifique tournoi en France, un des plus beaux tournois français que je connais bien, je l'ai joué de nombreuses fois. Et malheureusement, des fois, les dates des vacances scolaires font que je clash l'Open de Capelle. Et puis, la semaine avant, faut oublier qu'il y avait presque 400 joueurs à Cannes. Donc, c'est certain que le nombre de joueurs de compétition en France actifs qui jouent des tournois n'est pas non plus infini, quoi. Donc, des fois, on a des petites baisses de participation dans les tournois, quoi. Et donc, j'avais 14 groupes cette année, donc c'était très sympa. Donc du coup on avait des bonnes conditions de jeu, des fois j'en ai 16, des fois j'en ai 17, hein, ça dépend. Le record ça a été 17, je crois, groupe. Et dans le tournoi des grands maîtres, il est donc redevenu entre guillemets normal, hein, après le 10e festival de l'année 2012, donc c'était une formule exceptionnelle avec 6 grands maîtres. Là il y avait des maîtres qui voulaient faire des normes de grands maîtres dans le tournoi A. Et j'ai invité le numéro 4 français, Stratescu, qui a gagné ex aequo avec un jeune russe de 19 ans qui est déjà presque 2600 ELO. Ils ont gagné tous les deux à 7 points sur 9, quoi. Et derrière, troisième, il y avait le numéro 1 allemand chez les jeunes, Alexander Donchenko, qui est presque déjà 2500 ELO à 16 ans, qui a échoué de très peu pour la norme de grand maître qui était fixée à 6 points. Il a fait 5,5.
Oui.
Et puis voilà, et puis des joueurs français envoyés par la fédération, hein, puisque ces tournois-là, A et B, sont en partenariat avec la FFE, qui envoie ses meilleurs espoirs pour tenter de faire des normes, hein, donc dans le A pour faire des normes de grand maître, puis dans le B pour faire des normes de maître. Et donc, bon là, ils n'ont pas réussi à faire des normes dans le A, les jeunes, là, Sochaki, Adrien Demuth, ils n'ont pas réussi, et puis les Lorrains, ils ont un peu mal joué cette année, ils ont fini dans les derniers, mais bon, le tournoi était fort. Nézard, Brunner, Gensling, j'avais mis les meilleurs Lorrains, c'est les meilleurs Lorrains au classement ELO, c'est pas dur à sélectionner. Et voilà, ils n'ont pas réussi à faire de normes dans le A cette année. Par contre, dans le B, ben la FFE a eu un de ses joueurs de l'équipe de France jeune, Bilal Belhassen, qui a fait une norme de mètre, sa deuxième norme de mètre dans le tournoi B, et qui a même fait plus que ça, parce qu'il a carrément remporté le tournoi, quoi. Avec 6,5 sur 9, il a même un peu écrasé le tournoi. D'ailleurs, la première journée, c'est marrant, il a battu les deux grands maîtres, il y avait deux grands maîtres dans le tournoi B. Et il les a battus les deux la première journée, donc là déjà ça a réglé le problème.
Oui, et puis surtout ça donne confiance pour la suite.
Oui, plutôt, oui.
D'accord, donc une belle réussite encore pour cette édition 2014, avec un beau vainqueur nouvellement français maintenant, hein, bien sûr, Stratescu, qui est un très grand joueur, hein, très très fort. Moi, je me rappelle l'avoir vu jouer une finale de Grand Prix face à Karpov, et bon, ça s'est joué vraiment à très très peu de choses, et c'est un joueur très sympathique en plus.
Oui, bah André, il vient presque tous les ans à Nancy, hein, bien sûr, il vient systématiquement quand c'est un tournoi de partie rapide. Bon, un tournoi de partie longue, je peux pas l'inviter tous les ans non plus, mais bon, il est pas loin, il habite à Belfort, donc oui, il est très sympa, professionnel, pas de souci. En plus, c'est un bon joueur, vraiment, qui se bat. Moi, j'aime bien les joueurs qui se battent, hein, qui... Bon, il y a la règle, moi j'ai mis la règle qu'on ne pouvait pas proposer nul à mon festival, mais même sans ça, de toute façon, lui, c'est un joueur qui se bat quasiment en toutes les positions, quoi.
Très bien, alors donc voilà pour ton tournoi, hein, exceptionnel tournoi, hein, qui monte, qui n'arrête pas de monter depuis 12 ans, Festival International d'échecs de Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec le Conseil Général. Alors, on va étendre un peu maintenant notre analyse ou notre parcours en Lorraine, puisque on va essayer de parler un peu de la Ligue de Lorraine au sens un peu plus large, que tu connais sans doute assez bien, puisque comme tu disais, tu as fait beaucoup de tournois aussi en tant que joueur. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la Ligue de Lorraine, un peu comment elle s'organise, les grands tournois qu'il y a peut-être dans le calendrier lorrain, ou éventuellement des éléments historiques aussi sur cette Ligue que tu connaîtrais, que tu pourrais donner aux auditeurs?
Alors, la Ligue de Lorraine, oui, elle a une belle tradition échiquéenne quand même. On a ce fameux Grand Open International de Metz organisé depuis 30 ans. Alors, c'est sûr, hein, depuis, il a un peu vieilli. Il est pas toujours organisé, moi, je trouve, avec le fast qui devrait être pour ce tournoi. Mais bon, en tout cas, c'est un beau tournoi quand même, hein, 30 ans. Moi, j'ai joué de nombreuses fois.
Alors, si tu nous parles de ce tournoi, faudrait peut-être préciser si c'est un Open, sur combien de jours et à quelle époque de l'année il a lieu.
Alors, il a lieu prochainement. D'ailleurs, il a joué en avril, chaque année en avril, et c'est un Open de 9 rondes, classique. Hein. Bon, il y a deux Open, maintenant ils ont coupé en deux, hein, comme ça se fait beaucoup. Mais c'est un Open classique en 9 rondes, 7 jours. Donc, il y a deux journées à deux rondes. Parfois, il a eu lieu en 9 jours, carrément, mais je crois que les organisateurs ont vu qu'ils perdaient des joueurs avec c'est trop long, quoi, 9 jours, hein, pour prendre des congés, tout ça. Donc, voilà, et je crois que c'est toujours organisé par Salvatore Santonze, donc, qui est président d'un des deux clubs de Metz. Il y a beaucoup de clubs à Metz, je crois qu'il y en a 5, un peu comme à Nancy.
D'accord.
Et voilà, donc c'est un vieux dinosaure, quoi, hein, ce tournoi, mais bon, respectable, hein, très respectable.
D'accord.
Et puis, donc, je disais, il est un peu vieilli parce qu'il a moins de joueurs maintenant que dans le temps, mais maintenant, bien sûr, il a été un peu dépassé en termes de participation, en termes de conditions de jeu, tout ça par l'Open de Vendeuvre, qui est aussi un Open classique, hein, même format, 9 rondes, mais là cette fois en 5 jours, qui a lieu à Noël chaque année. Donc Vendôme, c'est le club dont je suis directeur maintenant, et donc je m'occupe aussi de ce tournoi, mais pas tout seul, et je ne l'ai pas créé. Et voilà, il a lieu à Noël chaque année, et il rassemble presque 200 joueurs. Voilà, donc c'est les deux grands événements Open, on va dire, puis mon festival, c'est le troisième événement.
D'accord. On n'a pas dit pour ton festival les dates habituelles à laquelle...
C'est février.
C'est février, hein, voilà.
Donc on peut se faire un circuit lorrain, Vendôme à Noël, Conseil Général Nancy en février, et puis Metz en avril, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres événements, genre des tournois rapides annuels, récurrents aussi?
Alors, oui, il y a pas mal de tournois rapides, pas chaque club, mais les plus gros clubs ont chacun leur tournoi de partie rapide, surtout en Moselle, en fait. Donc moi Nancy, c'est la Meurthe-et-Moselle, hein. Et donc on va dire en Meurthe-et-Moselle, c'est là qu'il y a le haut niveau, avec Vendôme en top 12, avec deux clubs en top jeune, Vendôme qui remonte et puis Nancy Stanislas qui reste, avec le haut niveau jeune et le haut niveau d'adulte. Puis la Moselle, c'est plutôt un département où il y a beaucoup de clubs, beaucoup de licenciés, mais beaucoup de petits clubs, en fait, avec effectivement plus de tournois de partie rapide du dimanche, quoi. Ouais. C'est là que j'en ai beaucoup joué pour ma progression au début, quoi. Voilà, c'est un peu la cartographie de la Lorraine.
Et il y a une période de l'année où ces tournois rapides se concentrent ou si on répartit un peu
Pas vraiment, ils sont répartis. Je pense qu'on peut à peu près en faire un par mois, approximativement, oui.
D'accord, bon, c'est bien, c'est une belle activité. Mais je crois que l'Alsace aussi, la Lorraine et l'Alsace sont connues quand même pour des régions où le jeu d'échecs est pratiqué de façon...
C'est sûr, c'est l'Est de la France, hein, on peut pas comparer. L'Alsace, c'est encore pire, hein, l'Alsace,
oui.
C'est encore pire, encore mieux, avec un nombre de tournois encore plus important, un nombre de clubs encore plus important, surtout.
Oui.
Et y compris des gros clubs, mais aussi plein de petits clubs. Chaque ville, enfin, j'exagère un peu, mais chaque village en Alsace a son club d'échecs, quoi.
Oui, ben oui.
Et en Lorraine, en Moselle, ça fait un peu ça aussi, quoi.
Et alors, c'est dû à quoi, là? C'est historiquement dû à quoi, cette spécificité, comme ça, de l'Est de la France, d'être très pro-échec?
Alors là, tu me poses une bonne question, tu poses une colle même, je sais pas du tout pourquoi l'Est de la France est plus fort. Bah, l'Allemagne, hein, est beaucoup, beaucoup plus de licenciés que nous.
Ouais.
Hein, je pense, dans les 150 000 licenciés en Allemagne, la fédération allemande, il y a beaucoup plus de clubs. Plus on va vers l'Est de l'Europe, non, ça paraît logique, plus on va vers l'Est de l'Europe, plus les échecs sont forts, donc dans l'Est de la France, c'est pareil, quoi.
Donc tu penses que c'est dû historiquement à l'influence de la Russie, et puis des pays de l'Est, et puis ça évolue vers l'Allemagne, et puis l'Est de la France, quoi.
Écoute, j'imagine.
D'accord. Ceci dit, on a de la tradition en France aussi, puisqu'avec Philidor, quand même, au 18e, avec voilà, la Bourdonnais derrière, enfin, on a eu quelques champions, mais c'est vrai que ça n'a peut-être pas accroché autant que sur l'Est. Alors, on va maintenant prendre encore un peu plus de hauteur, hein, après avoir analysé ce festival Meurthe-et-Moselle, après maintenant faire un petit tour donc, sur la Lorraine, dont tu nous as parlé, Vendeuvre, Metz, un petit peu ces tournois dans l'année qui sont organisés, cette activité très forte du jeu d'échecs en Lorraine. On va parler maintenant d'un nouveau rôle qui t'a été donné, c'est maintenant de t'occuper du championnat de France. Alors déjà, tu en as organisé un.
Alors oui, bon, ça c'est un sacré truc. Hein, championnat de France, oui, donc c'est championnat de France d'échecs, donc on parle bien du toute catégorie qui a lieu en août chaque année.
Oui.
Donc organisé par la Fédération française, c'est le plus gros tournoi en France, hein, encore, même en ayant perdu des parties depuis 10-15 ans, c'est quand même toujours le plus gros tournoi en France, devant justement Cap d'Agde, Capelle et le championnat de Paris.
Oui, c'est un truc énorme, hein, le championnat de France,
c'est un truc énorme, ça dure 12 jours.
Oui.
Et donc je me suis retrouvé à l'organisation de celui-ci qui vient d'avoir lieu à Nancy au mois d'août. Et la fédération a apparemment aimé ce que j'avais fait. Hein. Attention, j'ai pas tout fait tout seul. Hein. J'ai fait mais certaines choses, ils ont aimé et puis ils m'ont proposé. En tout cas, on a discuté que je sois l'organisateur des prochains championnats de France. Alors à la fois jeunes aussi en avril et adultes en août. Enfin adultes toute catégorie en fait. Et en tout cas être dans le staff FFE d'organisation et puis essayer de distiller quelques nouveautés.
D'accord. Et donc, alors, tu m'avais dit, donc tu as écouté le podcast de Fréquence Diagonale où Laurent Fraissiné s'exprimait et tu avais des choses à dire.
Ah non, pas de grande polémique, non, mais en fait, Laurent parlait notamment, c'est très intéressant ce qu'il dit, de toute façon, il faut toujours avoir l'avis de tous les niveaux de joueurs et donc l'avis des grands champions compte aussi, évidemment. Et donc, il parlait du national et j'ai aussi beaucoup réfléchi sur cette histoire de national du championnat de France. Donc national pour les gens qui nous écoutent, c'est les 12 meilleurs joueurs français, hein, grosso modo, qui se battent pour le titre de champion de France. Puis tu as la même chose à côté, ce qu'on appelle le national féminin, avec les 12 meilleurs joueurs joueuses de France qui se battent pour le titre de championne de France. Et donc, c'est vraiment une composante essentielle de cet énorme événement qui rassemble au total 800, 900, 1000 joueurs. Et donc avec 3000 personnes avec les accompagnateurs. Et donc j'ai fait une nouveauté cette année à Nancy, c'est-à-dire que j'ai sorti le national de leur pièce séparée. Ils avaient parfois un petit amphithéâtre dans le noir, comme ça, on les voyait mal. Enfin, moi je détestais, cette formule a été appliquée de nombreuses années, et moi vraiment j'aimais pas ça du tout, voir les meilleurs joueurs français jouer dans un amphithéâtre évidemment complètement vide, qui se remplissait un peu vaguement à la fin, en fin d'après-midi, par des joueurs qui avaient terminé leur partie. Ça, j'aimais pas du tout. Et cette année, à Nancy, la grande nouveauté, c'est que je les ai mis dans la grande salle, en fait. Dans la grande salle, au milieu, en tout cas, ou à côté, des 800 autres joueurs, quoi. Et ça, et j'ai eu que des retours positifs de cette nouveauté. Alors, attention, de la part de la masse des joueurs, hein. Parce que ils ont adoré jouer dans la même salle que les champions. Alors bien sûr, on met en scène les champions, hein, bien sûr, ils jouent sur des écrans télé qui reprennent en fait la partie, ils ont leur table, ils sont complètement mis en valeur, mais ils sont pas dans une pièce séparée. Et donc justement, j'ai écouté l'émission de Laurent, disait, il a tout à fait raison quand il dit qu'il faut mettre en valeur ces deux tournois, le national et le national féminin. C'est juste que je pas d'accord sur la façon de les mettre en valeur, quoi. Pour moi, ils doivent être intégrés vraiment au Championnat de France. C'est pas une compétition élite à côté qu'on va voir, parce que il y a une chose que j'ai remarqué quand même, hein, après 12 ans d'organisation, j'ai absolument organisé à peu près tout ce qui était possible d'organiser aux échecs, hein, des plus petites compétitions de gamins aux plus grandes compétitions avec les meilleurs mondiaux, enfin les meilleurs français en tout cas. Et j'ai remarqué malheureusement une chose, c'est qu'il n'y a pas de spectateurs aux échecs. Les spectateurs aux échecs, ça n'existe pas. D'accord ? On fera jamais venir des gens qui sont non initiés aux échecs, voire même Bacro contre Fressiné, contre Istratescu, contre Vacher-Lagrave, ça n'existe pas. Donc pour moi, en fait, le public aux échecs, c'est les joueurs. Il faut être déjà un petit peu joueur pour être public et apprécier un peu les parties des champions. Et c'est beaucoup plus impressionnant, même pour un sponsor qui vient voir le championnat de France, de voir cette masse incroyable de 800 joueurs avec les champions mis en valeur sur une estrade, sur ce que tu veux, sur au milieu de la salle, sur le côté, peu importe. C'est beaucoup plus impressionnant ça que d'aller voir un amphithéâtre vide et puis 12 champions sur la scène en train de jouer devant 0 spectateur ou 3 spectateurs, quoi. Quand c'est pas un joueur du tournoi vétéran qui ronfle devant, parce que c'est vrai que c'est sombre et on a envie de s'endormir, quoi.
D'accord.
Pour les parties lentes, pour moi, en tout cas pour les parties lentes, le public aux échecs, il n'existe pas, quoi. Ou il est sur internet, on suit les parties sur internet, mais bon, il va pas dans la salle voir les champions, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est pas vrai, par contre, pour les parties rapides. Les parties rapides, quand on fait un départage le dernier jour du Championnat de France, là c'est magnifique. On a à Nancy, on avait 500 spectateurs qui regardaient le départage de Grave Amdouchi et puis le départage le même pour le titre féminin, c'était magnifique, quoi.
Alors, tu rejoins sur cette idée, là, pour les parties lentes, bien sûr, tu fais bien de préciser, tu rejoins sur cette idée ce qui est fait au Chorus Vécandé. Je ne sais pas si tu es déjà allé
bien sûr,
tournoi, mais c'est exactement...
J'ai nombreuses fois à voir Vécandé, j'ai joué des tournois, et c'est magnifique, quoi, c'est magnifique, c'est mon idée, en fait, c'est un peu, j'aurais un peu piqué l'idée, c'est que les champions, ils sont au fond de la salle, hein, un peu séparés, bien sûr, ils sont un peu plus au calme, ils ont des tables, voilà, marketées, tout ça, avec des écrans géants, tout ça, mais ils sont dans la même salle que les, avec André, je crois, il y a leur 500 ou 600 joueurs dans le reste de la salle, quoi. Et du coup, c'est quand même super qu'on se dit qu'on joue dans la même salle que Kasparov, quoi. Kasparov, ça joue en 99, 2000 et 2001. Vous imaginez, quoi, vous jouez un tournoi, oui, bah, dans la même salle, il y avait Kasparov qui jouait contre Anand, tout ça.
Oui.
C'est quand même magique, quoi.
Oui, alors on a une émission, il y a une émission Diagonal TV qui a été faite en 2000 ou 2001, je ne sais plus exactement la date, où on est allé avec Anze et on a filmé tout ça, donc on voit cette mise en scène et on a une interview de Judith Polgar, d'Anand, je ne sais plus qui on a à peu près tout le monde, et c'est une émission culte, je crois que de Diagonal TV, c'est une des celles qu'on a eu le plus de plaisir à réaliser, et on voit exactement ce que tu racontes là, et qui montre effectivement, je crois que pour les parties longues, en effet, c'est sans doute la formule la plus intéressante. Moi, je me rappelle, tu parlais au tout début du podcast, tu parlais d'avoir découvert les échecs au moment du match Karpov-Kasparov de Lyon.
Voilà.
Et
oui.
Alors, moi, j'y étais à ce match, puisqu'il y avait un Open à côté, j'avais profité pour jouer l'Open, et on pouvait voir après Karpov-Kasparov se jouer le soir. Et c'est vrai que malgré que c'était quand même un championnat du monde, c'était diffusé sur TF1 le soir, effectivement, comme tu disais, vers 23h, enfin, il faisait un résumé, hein. Et dans la salle, bon, le week-end, il y avait un peu plus de monde, mais en semaine, c'est vrai que c'était loin d'être rempli, alors que c'était quand même, voilà, le top niveau mondial. Mais les gens suivaient.
Bien sûr, mais même moi, je suis maître international, 2400 ELO à peu près, je suis a priori capable de comprendre un peu ce qui se passe en une partie de deux grands maîtres à 2700 ELO, mais jamais je vais rester 4 heures devant la partie à regarder, à suivre coup par coup, c'est pas possible, c'est inhumain, quoi. Et en partie rapide, par contre, c'est sympa parce que il se passe des choses, ça dure 20 minutes, il y a des rebondissements, etc. C'est un petit thriller, quoi. Mais une partie longue, c'est pas possible, quoi. Personne reste 4-5 heures devant une partie du début à la fin, quoi. Donc c'est médiatiser les parties longues, pour moi, c'est quasiment impossible. On les suit, même quand on suit sur internet, personne reste 4 heures collé devant son écran. Et bon, ça, internet, c'est encore le problème. En plus, ça a encore plus vidé les salles de spectateurs que devant nos tournois, puisque les gens, objectivement, c'est beaucoup plus simple de suivre une partie d'échecs sur internet, quoi, de chez soi.
Oui, bien sûr. Alors bon, de notre côté, ça permet d'avoir aussi peut-être plus de spectateurs quand même, puisque la masse de gens qui peuvent regarder la partie est plus importante. Bon,
ah bah bien sûr, ça, on a beaucoup plus de spectateurs probablement qu'avant grâce à Internet. Mais bon, le problème, c'est que le sponsor, quand il entre dans la salle du tournoi, c'est les chaises vides qu'il voit. Il voit pas les 30 000 connexions.
Et voilà, il faut lui montrer les 30 000 connexions. Alors, donc voilà. Alors pour revenir à ce championnat de France, tu peux nous en parler. Alors on va se projeter un peu pour le championnat de France 2014, puis on finira peut-être sur le festival Meurthe-et-Moselle 2015, dont tu vas nous parler aussi. Alors ce championnat de France 2014 aura lieu en août. Tu vas nous rappeler les dates. C'est à Nîmes cette année, c'est ça, hein?
Alors voilà, c'est à Nîmes. C'est du 17 au 28 août. Hein, ça commence le dimanche, la ronde 1, le dimanche 17 août, la ronde 11, le jeudi 28 août. Et donc c'est dans une ville magnifique, hein, Nîmes, qui d'ailleurs, c'est pas par hasard, a fait le record de participation de ces 10 dernières années. Il y avait presque 900 joueurs en 2009.
J'y étais.
Voilà, j'y étais. Et il y avait juste un petit souci cette année-là, c'est qu'il y a eu une petite canicule, ouais. Une vraie canicule en fait, ouais. Et avec une salle pas du tout adaptée, quoi. Mais bon, ça c'est pas, on choisit pas toujours la salle, hein. C'était par des expositions avec une magnifique verrière qui laissait rentrer la chaleur. Ouais. Donc là, c'est le premier problème qu'on m'a demandé de résoudre d'ailleurs, hein, pour ce championnat 2014 à Nîmes, et on a changé de salle. Et afin de lutter contre cette chaleur, alors il fera toujours plus chaud à Nîmes qu'à Nancy, hein, ça c'est certain. Mais on a une salle maintenant plus adéquate qui devrait faire un rempart. Et puis bon, on espère ne pas avoir la même canicule non plus, quoi.
D'accord. C'est quelle salle, tu peux nous dire? C'est quoi?
Alors c'est juste à côté, c'est dans le même complexe. Il y avait ce phare des expositions un peu surchauffé. Et à côté, il y a ce qu'on appelle le Parnasse. C'est la grande salle de sport de Nîmes. C'est comme à Nancy l'année dernière. À Nancy, c'était la salle de basket. Là, c'est la salle de hand pour Nîmes. Et tous les joueurs pourront jouer sur le grand terrain de hand. En fait, on a calculé. Et on va faire une mise en scène. Alors ça, je le dis pas parce que je laisse la surprise. Il y aura une mise en scène spéciale créée par Georges Bellet de la Fédération du National et du National Féminin. Donc dans cette salle. Et voilà, donc là c'est des grands murs, il n'y a pas de verrière, ça protège de la chaleur, la salle est ventilée, attention, c'est pas climatisé, il fera pas 18 degrés, hein, faut pas rêver, mais il fera toujours chaud, c'est certain, mais complètement supportable pour jouer aux échecs, quoi.
D'accord.
En tout cas, ce sera plus les 40 degrés de 2009, je le promets à l'ensemble des participants.
D'accord. Alors un petit mot, tu en as parlé un peu aussi, peut-être ça serait bien de donner un petit mot avant de parler du Festival 2015. Tu as dit aussi que tu t'occupais un peu du Championnat de France des jeunes aussi, je crois.
Bah, en fait, la Fédération m'a demandé de jeter un coup d'œil sur tous ces événements, en fait. Donc les deux premiers, c'est même en nombre de participants, c'est d'abord le Championnat de France des jeunes, donc qui a lieu chaque année en avril, c'est 1200 jeunes en fait, c'est énorme comme compétition. Donc j'y étais souvent en tant qu'entraîneur, mais donc comme je l'avais déjà dit, jamais en tant que joueur. Et là je vais y être cette année, mais bon là j'ai pas eu le dossier en main, enfin j'ai pas de nouveauté à distiller pour là, et je vais aller plus en tant qu'observateur là dans 3 semaines, dans un mois. Par contre pour Nîmes, je suis aux manettes là, et avec l'organisateur local Arnaud Perrault du club de Nîmes, on va faire quelque chose de bien, quoi.
D'accord, très bien. Juste un petit pour nous dire, le championnat de France des jeunes, lui, il aura lieu où?
Il a lieu à Montbéliard. À l'Axone de Montbéliard, une salle magnifique d'ailleurs. C'est organisé par Belfort Échec, hein, c'est la ville juste à côté, mais la salle va être magnifique. C'est une immense salle de concert avec plein de facilités, un parking géant, et donc c'est tout ce qu'il faut pour faire un beau tournoi d'échecs.
D'accord. Alors maintenant, pour terminer, Christophe, peut-être une petite projection pour 2015. Je suppose que tu penses déjà à ton festival Meurthe-et-Moselle 2015. Est-ce que tu peux nous dire déjà au moins quand? Est-ce que tu sais déjà les dates, ou est-ce que tu sais déjà s'il y aura tel ou tel type de nouveauté pour
alors, les dates précises, j'ai pas encore regardé, mais ce qui est certain, c'est que l'alternance continue et que ça sera une formule de partie rapide. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pas faire venir les gens, surtout ceux qui viennent de loin, seulement pour un dimanche. Donc généralement, je mets toujours j'aime bien en plus le blitz, en plus des parties rapides. Donc je fais toujours un tournoi blitz géant le samedi, généralement après-midi, comme ça les gens peuvent voyager le matin. Et puis le tournoi de partie rapide, le truc phare, le dimanche, quoi. Et bon, je demanderai à la fédération que ça soit Championnat de France, mais si c'est pas Championnat de France, ça aura lieu quand même, peu importe. Et donc, j'espère un bel événement. Donc ouvert. Généralement, le public est plus large, je dépasse largement les 200 joueurs dans ces cas-là. Et donc j'aime bien battre des records. Je peux pas battre des records en partie longue parce que je veux garder des bonnes conditions de jeu, donc je me limite à 170-180 joueurs. Par contre là, pour les rapides, on peut largement, on n'a pas besoin de place pour noter ses parties, il n'y a pas de feuille de partie de soi, donc on peut battre des records. Et j'aime bien essayer d'en battre, quoi. Et puis, bon, bien sûr, avec le haut niveau aussi, inviter des très forts joueurs de partie rapide, les meilleurs français et quelques-uns des meilleurs mondiaux, quoi.
D'accord, donc c'est alléchant. Il faut rester très éveillé pour suivre les annonces de ce futur championnat. Je rappelle le site pour se tenir au courant, échec avec un S54, échec54.free.fr, pour l'instant l'adresse officielle de ce site. Alors peut-être un jour, tu auras une adresse en propre que plutôt qu'une adresse... chez un hébergeur.
Alors, en fait, c'est mon association, en fait. Bah, je crée le festival, je le fais pas dans le cadre de mon club, hein. Ça a toujours été moi qui l'organisais seul. Ouais. Donc, c'est l'adresse tout simplement de mon association, Échec 54. Hein. C'est un nom comme ça, ouais, 54 pour Meurthe et Moselle, puis Échec, puis voilà.
Mais tu pourrais prendre une adresse de type www.échec54.org, par exemple, non?
Oui, bah après, il faut payer, tu sais, dans l'Est de la France, on est radin.
D'accord. Ouais, mais c'est vraiment pas cher. Ça doit coûter 10 € par an. Je pense que tu dois pouvoir le faire.
Bien sûr, c'est parti des choses à améliorer petit à petit.
Voilà. Alors, on voit aussi ton site internet qui est très bien fait par ailleurs, mais il est fait directement en HTML, c'est ça? Tu mets à jour des pages HTML
pour mon site perso.
Pour le site échec54.free.fr.
Ah, échec54. Oui, il date déjà, hein, mes sites, je suis pas trop à la page, je pense, technologiquement. Oui, c'est de la mise à jour basique, quoi. Hein.
Mais il est pas mal.
Bon, je suis aidé, chaque année, je me fais aider par des gens vraiment compétents, du style Étienne Mensch pendant plusieurs années, Sylvain Raveau cette année qui m'a fait les vidéos et puis qui s'est occupé du site aussi.
D'accord.
Moi, je suis pas particulièrement compétent en termes informatiques, quoi.
D'accord. Alors, si tu veux un site qui, sans surcoût d'ailleurs, qui te permet de faire des mises à jour faciles, bien, il y a ce qu'on appelle des content management systems en logiciel libre. Hein, donc, tu n'es pas obligé de payer vu que tu es radin et puisque tu fais partie de l'Est. Mais en logiciel libre, c'est des types comme WordPress ou Joomla. Donc je fais aussi un peu la promotion parce que j'aime bien faire la promotion des logiciels libres, hein, parce que c'est bien qu'on s'approprie ces technologies qui sont développées avec passion aussi par des développeurs qui les mettent à disposition justement de tous. Et en les utilisant, on y participe un peu puisqu'on peut remonter des bugs quand on en trouve. Bon, il y en a de moins en moins d'ailleurs, hein, sur WordPress ou Joomla, ils sont d'excellente qualité désormais.
Oui, d'ailleurs, pour Nîmes, d'ailleurs, j'utilise un WordPress,
ouais.
Que m'a mis en place Eric Delmotte.
Ouais.
Et d'ailleurs, je peux donner l'adresse. Hein,
oui, bien sûr.
Il est lancé, le site, c'est nîmes2014.ffechec.org.
D'accord.
Et en fait, c'est un domaine que la fédération a acheté.
Ouais.
Donc, a priori, tous les championnats de France seront hébergés sur ce nom de domaine, ffechec.org. Et le site est lancé, là, vous pouvez aller voir, il y a la fiche officielle, il y a déjà le programme officiel, avec quelques petites nouveautés que je vous laisse découvrir. Et puis, ça va être, bien sûr, comme d'habitude, mis à jour progressivement, les hébergements, les bons plans, tout ça. Quoi.
Eh bien, voilà une excellente nouvelle. Merci beaucoup, hein, Christophe, pour nous avoir fait ce voyage, à la fois dans ton parcours de joueur, hein, tu es maître international, on le rappelle, et puis donc organisateur qui monte, hein, avec ce festival qui en est à sa 12e édition et qui a vu passer des grands maîtres parmi les meilleurs du monde. Et qui continue l'an prochain et qui est maintenant aussi, donc tu t'occupes un petit peu de superviser, d'apporter ton expérience un peu au championnat de France, puisque la fédération te l'a proposé et que tu l'as accepté. Voilà. Merci à toi pour cette émission sur Fréquence Diagonale. Merci à vous tous de nous écouter. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Fréquence Diagonale un peu partout. Dans le monde francophone du jeu d'échecs pour une destination inconnue. À bientôt et je vous laisse avec notre générique.